VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du mercredi 23 mai 2018. En direct de Washington, Idrissa Sebudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Au Mali, des djihadistes présumés ont tué deux villageois âgés, les accusant d'être au service de l'État.
Au Cameroun, convocation de l'ambassadeur des États-Unis au ministère chargé des Relations extérieures.
En République démocratique du Congo, les habitants de Mbandaka évitent la viande de brousse depuis que l'épidémie d'Ebola a été déclarée le 8 mai.
Le président en exercice de l'Union africaine, le Rwandais Paul Kagame, reçu aujourd'hui par son homologue français Emmanuel Macron à l'Élysée.
Ici à Washington, le président Donald Trump n'écarte pas un éventuel report du sommet prévu le mois prochain avec le leader nord-coréen Kim Jong-un.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Au Mali, des djihadistes présumés ont tué deux vieillards à Tenenkou et une dizaine de personnes ont perdu la vie dans un affrontement dans la région de Menaka. Parmi les victimes, un officier de la coalition MSA Gatia et un chef de guerre djihadiste. Le point avec notre correspondant Kassim Traoré.
La bataille dans le sable mouvant de Menaka se poursuit. C'est pour cela qu'il y a eu hier un affrontement à Inazul, localité située à 30 km au sud-est de Menaka ville. Le bilan est de 3 morts du côté de la coalition MSA Gatia, dont un officier du MSA, Sidaham Ag Almata. 8 morts du côté de leurs ennemis, dont un important chef de la bande, Mokhtar Ag Libin. Il est connu comme l'auteur des dernières tueries des civils dans la localité de Takaten le 9 mai et de Taghet le 12 mai 2018, faisant une vingtaine de civils tués. À Tenenkou, dans la région de Mopti, deux vieillards ont été assassinés. L'incident s'est déroulé dans la commune de Diafrawe, plus précisément dans le village de Waka. Selon nos informations, les djihadistes ont assassiné les deux vieillards qu'ils accusent d'être au service de l'État malien. Dans le même cercle de Tenenkou, mais cette fois-ci dans la zone de Gangel, deux jeunes bergers ont été tués près de leur campement. Certains d'entre eux sont portés disparus. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Cameroun, l'ambassadeur des États-Unis, Peter Henry Ballerine, a été convoqué au ministère délégué à la présidence de la République chargé des relations extérieures, où il a été reçu par le ministre, le jeune Mbella Mbella. Cette convocation fait suite à une sortie médiatique du diplomate américain sur l'avenir politique du président camerounais Paul Biya. De Yaoundé, correspondance d'Emmanuel Jultap.
De sources ministérielles sous anonymat, la convocation de l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun, Peter Henry Ballerine, avait trait aux déclarations faites le 18 mai dernier par le diplomate américain au lendemain d'une audience que lui avait accordée le président du Cameroun, Paul Biya. Des déclarations largement partagées à la presse camerounaise dans lesquelles l'ambassadeur américain disait par exemple avoir suggéré à Paul Biya de réfléchir à son avenir et à comment il souhaite que l'on se souvienne de lui dans les livres d'histoire. La chancellerie américaine à Yaoundé n'a pas laissé filtrer la moindre information relative à cette convocation de son ambassadeur. Mais d'autres sources diplomatiques à Yaoundé ont confirmé à VOA Afrique la convocation de l'ambassadeur américain par les autorités diplomatiques camerounaises. Une convocation qui s'est déroulée, a précisé une autre source diplomatique, loin des caméras. Les déclarations de l'ambassadeur américain ont suscité des réactions divergentes au Cameroun. Les partisans du président Paul Biya ont notamment critiqué la volonté de Washington d'infantiliser le Cameroun. À 85 ans, Paul Biya entretient encore le flou sur sa probable candidature à l'élection présidentielle prévue cette année. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
À Mbandaka, dans le nord-ouest de la République démocratique du Congo, la viande de brousse n'attire plus beaucoup de consommateurs. Depuis la déclaration de l'épidémie d'Ebola le 8 mai, les habitants évitent de consommer de tels produits. Marie Benson.
La viande de brousse est très appréciée de la majorité des habitants de Mbandaka. Elle n'attire plus les consommateurs depuis la déclaration de l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola. Les habitants sont convaincus que la viande de brousse est le vecteur de la maladie. Ainsi, le gibier s'est fait rare dans les marchés, mais quelques rares vendeuses continuent de découper cette viande sans aucune mesure de protection. Le virus Ebola se transmet de l'animal à l'homme à travers des contacts directs, notamment par la chasse. Le dernier bilan fait état de 27 morts. Lundi, les autorités congolaises et l'OMS ont lancé une campagne de vaccination ciblée à Mbandaka, visant près de 600 personnes, la plupart des travailleurs dans le secteur de la santé ou ayant eu contact avec des malades.
Toujours en RDC, la grande majorité des enfants qui rejoignent les groupes armés le font volontairement, faute d'alternative. C'est ce qu'a indiqué l'ONG suédoise War Child dans un rapport publié hier à Kinshasa. Parmi les facteurs d'incitation, le rapport cite la pauvreté, le chômage, la faim, le tribalisme, la recherche d'un refuge pour échapper aux arrestations, les mauvais traitements au sein du foyer par la police et par d'autres groupes armés, ou le désir de vengeance.
Le président du Rwanda, Paul Kagame, doit être reçu aujourd'hui par son homologue français, Emmanuel Macron, à l'Élysée, pour la première fois depuis 2011. À noter que les relations entre Paris et Kigali restent très acrimonieuses depuis le génocide rwandais de 1994. Monsieur Kagame, qui est également président en exercice de l'Union africaine, est venu participer en France au Salon international des start-up Vivatech. Son pays nourrit l'ambition de devenir l'un des centres numériques du continent.
Une délégation du Parlement européen qui s'est rendue en Libye pour la première fois depuis 6 ans a appelé hier les pays de l'Union européenne à agir de façon concertée au sujet de ce pays en proie au chaos. Cet appel a été lancé à Tunis par le vice-président du Parlement, Fabio Castaldo, à l'issue d'une visite à Tripoli. Il a été reproché à l'Italie d'avoir notamment passé des accords avec des milices pour limiter l'immigration clandestine. Et la France, qui s'est posée en médiatrice, a été accusée de soutenir l'homme fort controversé de l'Est libyen, le maréchal Khalifa Haftar.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le président américain Donald Trump a laissé entendre que le sommet prévu à Singapour avec le leader nord-coréen Kim Jong-un pourrait ne pas avoir lieu le mois prochain. Il est possible que ça ne marche pas pour le 12 juin, a dit Monsieur Trump, assis dans le bureau ovale aux côtés de son homologue sud-coréen Moon Jae-in. Si la rencontre n'a pas lieu, elle aura peut-être lieu plus tard, a dit Monsieur Trump. Il a cependant ajouté qu'il y a une bonne chance pour qu'elle ait lieu. Selon Monsieur Trump, les discussions préliminaires entre officiels américains et nord-coréens ont été jusqu'ici, je cite, une bonne expérience. M. Trump a également affirmé croire que Kim Jong-un est très sérieux au sujet de ce projet de sommet. Le président Trump a par ailleurs parlé de certaines conditions qu'il souhaite, mais s'est refusé à les préciser. Il a encore souligné que la dénucléarisation de la Corée du Nord doit avoir lieu.
Toujours à Washington, le président Trump a déclaré hier qu'il n'y a pas encore d'accord sur la levée de l'interdit frappant pendant 7 ans la vente de composants électroniques américains indispensables aux smartphones du géant chinois des télécommunications ZTE. Mais il n'écarte pas un éventuel compromis dans le cadre des pourparlers commerciaux actuels entre les deux principales économies du monde. Monsieur Trump pense en particulier à une amende de plus de 1,3 milliard de dollars, un changement de dirigeant de la compagnie et des règles de sécurité très strictes pour empêcher les vols de propriétés intellectuelles et de secrets liés à la sécurité nationale. ZTE est accusé par Washington d'avoir violé les sanctions commerciales américaines contre l'Iran et la Corée du Nord.
Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo s'est juré hier de tout faire pour rapatrier les otages américains en Iran, disant que le gouvernement américain tout entier travaille d'arrache-pied et utilise tous les moyens et mécanismes possibles. Les familles de plusieurs otages américains craignent que le retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien ne rende plus difficile encore le retour de leurs proches.
Montée de tension entre le Venezuela et les États-Unis, le président Nicolas Maduro a annoncé hier l'expulsion du chargé d'affaires américain à Caracas et réagissait ainsi à la décision de Washington d'imposer de nouvelles sanctions contre son pays après la réélection dimanche de M. Maduro. Le point avec Eric Manirakiza.
J'ai déclaré persona non grata le chargé d'affaires des États-Unis Todd Robinson et j'annonce son départ dans les 48 heures, a déclaré hier le président socialiste dans un discours au Conseil national électoral. Nicolas Maduro a également ordonné l'expulsion de Brian Naranjo, le numéro 2 de la mission diplomatique américaine à Caracas, qu'il a accusé d'être le représentant de la CIA. Le président vénézuélien répondait au décret signé la veille par le président Donald Trump qui veut réduire la capacité de Caracas à vendre ses actifs. Dimanche, lors d'un scrutin boycotté par l'opposition, M. Maduro, âgé de 55 ans, a obtenu 68% des voix contre 21% à Henry Falcon, son principal adversaire. Ces résultats ont été qualifiés de farce par Washington. Le département d'État a annoncé hier que si les expulsions sont confirmées, les États-Unis vont prendre des mesures réciproques appropriées. Les deux pays n'ont plus d'ambassadeurs respectifs depuis 2010.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Eric Manirakiza.
La ville de Port Saïd, en Égypte, pourrait bientôt abriter une zone industrielle russe et vise à attirer 7 milliards de dollars d'investissement, notamment plusieurs nouvelles entreprises russes. Elle couvrira une superficie de 5,25 km². Les autorités égyptiennes espèrent créer plus de 35 000 emplois. Le Caire ambitionne de faire de cette zone industrielle une plaque tournante du commerce international, plus précisément dans le cadre des exportations vers le Moyen-Orient, l'Europe et l'Afrique. Les acteurs du secteur du tourisme, financiers et avocats se réunissent à Paris le 18 juin pour discuter du potentiel d'investissement du secteur du tourisme en Afrique. Deux tables rondes sont envisagées. Le financement est un outil incontournable au service du développement du tourisme africain et l'innovation comme stratégie pour l'émergence d'un label Afrique. Le groupe d'hôtellerie Azalaï proposera une étude de cas pour identifier les étapes clés dans la réalisation d'un projet touristique de grande ampleur en Afrique. Le président Donald Trump envisage d'infliger une amende de plus d'un milliard de dollars au groupe chinois de télécom ZTE en cessation d'activité à la suite des sanctions américaines. ZTE est interdit pendant 7 ans d'importer des composants américains. La mesure pénalise aussi les entreprises américaines. M. Trump a indiqué qu'il n'y avait pas encore d'accord avec Pékin.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Oroya accroche un match en retard de la journée de la Ligue africaine des champions.
Au stade du 28 septembre à Conakry, 2-2 entre Oroya et les Mamelodi Sundowns pour le compte de la deuxième journée du groupe C de la Ligue africaine des champions. Initialement prévu le 15 mai, ce match a été déplacé d'une semaine à la demande du club sud-africain qui devait jouer la semaine dernière un match de gala contre le FC Barcelone. Après ce match nul, 2-2, Oroya est premier ex-aequo du groupe C avec 4 points.
Feu d'artificiaire entre le Nigeria et l'Atlético Madrid.
Les Colchoneros vainqueurs de l'Europa League ont battu dans les ultimes minutes les Super Eagles, ceux qui jouaient devant leur public. Victoire finale des Espagnols devant le Nigeria, 3-2. Nkwakali et Ousmane, buteur nigérian. Correa, Torres et Moreno, buteur madrilène. Prochain match amical pour le Nigeria dans sa préparation à la Coupe du Monde contre la RDC, ce sera à Port Harcourt.
Grande finale de la Ligue des Champions samedi.
Remporter la Ligue des Champions deux fois de suite ne les a pas rassasiés. Zinedine Zidane et le Real Madrid sont plus motivés que jamais pour remporter une nouvelle C1 avant la finale de samedi à Kiev contre Liverpool. Personne ne peut nous dire qu'on a moins faim, a souligné hier l'entraîneur madrilène en conférence de presse. On rappelle que l'expérience du Real à ce stade de la compétition est incomparable par rapport à Liverpool dont la dernière finale remonte à 2007. C'était alors une défaite à Athènes contre le Milan AC 2-1.
La continuité à la tête de la sélection espagnole.
Julen Lopetegui, sélectionneur de l'équipe d'Espagne de football depuis 2016, a vu son mandat à la tête de la Roja prolongé jusqu'en 2020, avant même de partir pour le Mondial en Russie, annoncé hier de la Fédération espagnole. C'est une marque de confiance pour l'ancien gardien de but de 51 ans à 3 semaines du début du Mondial. La Fédération espagnole n'a pas précisé si le nouveau contrat courait jusqu'à avant ou après l'Euro 2020. Allez Idrissa, les playoffs continuent ici. On part pour la finale de la Conférence Ouest entre Golden State et Houston cette nuit.
Houston a stoppé l'incroyable série de 16 victoires consécutives à domicile en playoff de Golden State avec une victoire à l'arraché 95-92 hier. Les Rockets, supportés par James Harden, 32 points, et Chris Paul, 27 points, sont revenus à la hauteur des Warriors dans la finale de conférence Ouest, 2 victoires partout, et ils peuvent prendre l'ascendant jeudi dans leur salle.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Burkina Faso, les forces de sécurité semblent avoir déjoué des actes terroristes en cours de préparation. Tôt mardi, elles ont lancé une opération qui a permis de tuer 3 djihadistes présumés à Rayongo, dans la banlieue de la capitale. C'est que depuis janvier 2016, après les attentats contre le café Cappuccino et l'hôtel Splendide de Ouagadougou, les attaques terroristes sont devenues récurrentes dans le pays. Peut-être, quelle est peut-être la meilleure réponse à de telles attaques ? Bakasikoura a posé la question au sociologue Jacob Yara Batchola.
On est parvenu à comprendre qu'il faut avoir une approche multifactorielle donc du phénomène, le prendre sous le plan géopolitique, le prendre sous le plan justement donc des facteurs incitatifs et des facteurs attractifs donc du phénomène, et faire en sorte que maintenant on le comprenne dans un projet global, dans la zone sahélo-sahélienne. Depuis un certain temps, on essaie donc de comprendre que depuis la crise qui sévissait au Mali en 2012, avec une arrivée massive des réfugiés sur le sol burkinabé, et en ce moment là, le Burkina a cessé à un certain moment d'être donc une zone de repli pour les terroristes, mais maintenant est une zone aussi convoitée par donc les terroristes, et les actes terroristes se multiplient donc dans ce sens-là.
Comment est-ce que les populations du Sahel vivent tout ça? Parce qu'on a l'impression que beaucoup de choses ont changé hein, ces dernières années, avec notamment la fuite des enseignants et certains fonctionnaires de cette région.
Oui. La question, exactement, c'est à ce niveau. Parce que la psychose est véritablement l'arme, justement, donc, des terroristes. Et la stratégie est telle que maintenant, tout le monde est terrorisé. Nous avons rencontré des jeunes, nous avons rencontré, donc, des populations qui vivaient paisiblement, qui faisaient l'élevage comme principale activité, qui ne peut plus rien faire. Et cette situation est très préoccupante. Quand on voit un peu, chaque fois, on attaque, on tue un maire, on tue un préfet, on enlève et on chasse, donc, des enseignants. On se rend compte que la stratégie, c'est effectivement de dire « ici, ce n'est plus votre territoire, poussez, laissez-nous la place ». La situation donc pour les populations est très préoccupante, et actuellement, c'est de faire en sorte qu'elles soient rassurées, qu'il y ait une présence militaire, qu'il y ait une présence de l'autorité de l'État qui est menacée sérieusement, mais tout cela encore reste à faire.
Comment est-ce qu'on peut sortir de tout cela? Comment est-ce qu'on peut arriver à vaincre le terrorisme au Burkina?
Bon, il y a des gens qui pensent qu'il faut vivre avec qu'on n'y peut rien. Je pense que c'est une approche fataliste. Ce qu'il faut faire, et je pense qu'il y a déjà des signaux, on a eu une approche militaire avec le G5 Sahel qui se met en place. C'est une approche qui a ses limites, mais il faut saluer quand même cette initiative si elle venait à être constitutionnelle. Certainement qu'il y aura des résultats. Il y a une approche aussi liée au développement donc de la zone du Sahel. On a mis en place un programme d'urgence pour le Sahel à coût de milliards. On attend donc de voir les effets. Et on a aussi justement quelques efforts au niveau interne qui doivent être faits et qui se font déjà. Mais tout cela, je pense que c'est une réponse globale sous-régionale qui viendrait à bout donc de cette nébuleuse.
C'était le sociologue Jacob Yara Batchola, joint à Ouagadougou.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
En République démocratique du Congo, l'épidémie d'Ebola a mobilisé les autorités, l'OMS et de nombreuses organisations depuis le début de l'épidémie. Alors qu'une vaccination ciblée a été lancée lundi à Mandaka et que les aides affluent dans la région, la question de leur bonne répartition demeure. Raissa Girondin a joint Marie Zemengi, journaliste à Mandaka.
Par rapport à ça, il faut dire que c'est du jour le jour que les cas d'alerte se présentent. Comme aujourd'hui, là, les malades sont internés au centre de traitement Ebola. Il y avait 2 cas d'évasion, dont un malade était décédé hier. Et aujourd'hui encore, il y a eu 1 cas d'alerte, selon les informations qui sont en notre possession. Et tout ça, c'est dû, je peux dire, au manque de mobilisation concrète des ressources par les partenaires.
Vous pensez que donc, actuellement, un état d'urgence un peu plus mondial concernant l'économie doit être levé?
Ils sont vraiment nombreux sur terrain, mais à terme, des ressources comme ça, ils n'ont pas encore déployé. On vit de permettre aux acteurs de pérenniser les actions à travers toutes les zones de santé qui sont citées. Parce qu'ici, dans la ville de Mbandaka, il y a ces trois zones de santé. La zone de santé de Mbandaka, de Wangataï, de Bolingué. Alors, pour déployer les équipes dans tout ce terrain, il se pose un problème de ressources. Il faut la mobilité. Alors, jusqu'à ces jours, bien que la population à son niveau, avec des informations qui est là, se prend un peu en charge, elle pratique quelques règles d'hygiène qui lui sont données à travers les médias et autres interventions, mais se pose un problème de ressources. Et vous voyez même que les gens qui sont malades, ils ont un problème, ils n'ont pas à manger alors que les partenaires avaient promis à ce qu'ils vont supporter ces malades par rapport au kit social dans ces centres. Et la façon de choisir à remédier un problème et en créer un autre.
Est-ce que les gens ont peur les uns des autres, le fait qu'imaginons qu'il y a un cas qui est suspect dans une maison? Est-ce que les gens se parlent? Est-ce que les gens veulent toujours se serrer la main? Comment les habitants vraiment le vivent?
Par rapport à ça, la première semaine, il y avait un peu de résistance. Il n'y avait pas vraiment la bonne information, mais à cette période, l'information circule et tout le monde a compris. Et d'ailleurs, la plupart des gens, disons, je te dis, 90% de la population ne se sert plus la main. Et les gens en Mbandaka, tout le monde s'est fait promener avec son désinfectant pour désinfecter à tout le temps les mains. Et donc, c'est par rapport à la pratique, vraiment, les gens pratiquent les règles d'hygiène. L'épidémie, la maladie à gérer ce Ebola ne concerne pas seulement les trois zones de santé de Mbandaka. Et donc, il faut aller jusqu'à la toute dernière zone de santé qui était touchée. Et il y a même l'équipe qui est sur place là, elle est aussi confrontée à ces problèmes. Il n'y a pas de moyens, comment on peut travailler?
C'était Marie Zemengui, journaliste jointe à Mbandaka.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi, plein feu sur la réapparition de la maladie à virus Ebola en République démocratique du Congo. Une campagne de vaccination a démarré lundi. Quelle est l'ampleur de cette 9e épidémie en RDC? Les pays voisins courent-ils un risque de propagation? Que sait-on du vaccin expérimental utilisé pour contrer la maladie? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Washington Forum ce jeudi à 19h.
En Ouganda, les mototaxis appelés Boda Boda sont les moyens de transport les plus rapides et les moins coûteux, mais les conducteurs peuvent s'avérer très imprudents, ce qui contribue à de nombreux accidents. Un habitant de Kampala, ancien conducteur lui-même de Boda Boda, a donc décidé de créer une application appelée Boda Sécurisé. Le point avec Marie Benson.
Avec un trafic intense à Kampala, le Boda Boda est souvent le meilleur moyen de transport en ville. La police ougandaise déclare que 7000 personnes ont perdu la vie ces trois dernières années dans des accidents de la route. L'hôpital Mulago reçoit environ 8 patients par jour qui sont tous victimes d'accidents de Boda Boda. Le docteur Muhumuza Michael Edgar est chirurgien de l'hôpital.
Plus de 80% des victimes ont des traumatismes. 90% d'entre eux sont dus à des accidents de Boda Boda. Nous ne pouvons pas opérer les patients avec une tumeur au cerveau tellement le crâne des victimes est endommagé.
Ricky Rapa-Thompson est un ancien conducteur de Boda Boda. Il veut améliorer la sécurité des mototaxis. Il a participé à l'élaboration d'une application nommée Boda Sécurisé.
Le problème, c'est que vous ne savez pas avec qui vous montez. Vous ne savez pas si le conducteur est prudent, s'il a été bien formé. Vous ne pouvez pas savoir si la personne fera attention sur la route.
Les clients peuvent commander un taxi grâce à cette application. Boda Sécurisé analyse chaque conducteur et lui offre des formations sur la sécurité routière. Les conducteurs de mototaxi utilisant l'application Boda Sécurisé doivent s'arrêter au feu rouge et faire attention aux piétons. Ils doivent également donner aux clients un filet à cheveux propre et un casque, ce qui est une démarche très rare à Kampala. Patrick Bob travaille depuis 2 ans pour Boda Sécurisé.
Depuis que je travaille avec Boda Sécurisé, beaucoup de choses ont changé. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus prudent sur la route. Je laisse même les autres véhicules passer parce qu'après tout, Le plus important, c'est d'arriver à destination sain et sauf.
Bien que l'application offre un service moins cher et plus sécurisé depuis 4 ans, elle a du mal à attirer les usagers. Les Ougandais qui n'ont pas de smartphone ne peuvent pas l'utiliser, alors que d'autres préfèrent lever la main pour réserver leurs courses en personne.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Abidjan, New York, par vol direct, c'est effectif depuis le 12 mai. Une bonne nouvelle pour les Ivoiriens et Américains, ainsi que pour les hommes d'affaires de la région. Reportage du correspondant de VOA Afrique à Abidjan, Georges Ibrahim Tunkara.
C'est la fin des longues escales et des fouilles interminables pour tous ceux qui avaient jusque-là l'habitude de se rendre aux États-Unis à partir d'Abidjan en transitant par d'autres pays. Grâce à la compagnie aérienne Ethiopian Airlines, ils peuvent depuis le 12 mai dernier se rendre à New York aux États-Unis par vol direct. Un vrai soulagement pour ces voyageurs interrogés par VOA Afrique.
Je suis content qu'il y ait le retour du vol direct entre Abidjan et New York. Par le passé, je l'ai fait il y a une vingtaine d'années sur Air Afrique et on est obligé de passer par la France ou passer par d'autres pays. Ça fait plaisir de directement partir d'Abidjan. Ça permet d'aller rapidement et revenir. Surtout, ça permet d'éviter de passer par l'Europe, passer par d'autres pays.
C'est une grande fierté et nous avons un grand gain en temps et en coût. Je pense que c'est une aubaine pour la Côte d'Ivoire.
3 vols hebdomadaires directs pour 470 000 francs CFA le billet aller-retour. Tewolde Gabriel Mariam est le directeur général de la compagnie éthiopienne. Il estime que ce partenariat avec la Côte d'Ivoire est au bénéfice des passagers.
Traveling public has been,
c'était angoissant pour les passagers ouest-africains qui voulaient se rendre aux États-Unis en transitant par l'Europe. Il fallait faire face à de nombreux problèmes, changement d'avion, perte de bagages, longue durée de transit, contrôle de visa, billets d'avion chers. Tout ça est fini. Nous allons faire gagner du temps aux passagers avec ces vols directs. Les prix sont aussi bas. C'est une bonne opportunité pour nous et aussi pour les passagers et nous sommes confiants pour la suite.
Le ministre ivoirien des Transports, Amadou Koné, se satisfait aussi de cette ligne directe à Abidjan-New York.
Les investissements ont été faits pour que le pays soit beaucoup plus attractif pour les investisseurs. C'est un sentiment de fierté parce que nous étions tous frustrés de ce qu'il n'y ait pas de liaison directe entre notre pays et la première puissance économique mondiale. Il y aura cette liaison avec les États-Unis que nous allons tout faire pour maintenir.
La certification en 2015 de l'aéroport d'Abidjan par les États-Unis était la condition première au rétablissement de cette liaison directe qui sera assurée en partenariat avec Air Côte d'Ivoire, la compagnie nationale ivoirienne. Abidjan-New York en vol direct, le rêve est donc devenu réalité pour de nombreux Ivoiriens, ouest-africains et américains. Reste à savoir quelle sera la rentabilité de cette ligne pour la compagnie éthiopienne. Georges Ibrahim Tunkara, Abidjan, VOA Afrique.
Dans la prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlerons de la déshydratation.
Il s'agit d'un état physiologique qui survient lorsque l'organisme perd des liquides corporels du fait des maladies ou des conditions climatiques sévères.
Pour en parler, nous recevrons le docteur Lumbala Jean-Pierre, médecin généraliste en RDC. Il nous parlera des causes, des manifestations et des mesures pratiques pour faire face à la déshydratation.
Nous écouterons aussi deux autres spécialistes en RDC, le docteur Paluku Mulumbirwa, qui nous parlera du sel de réhydratation orale, une solution souvent utilisée pour réhydrater le corps humain. Un autre spécialiste, le docteur Blaise Kangano, nous parlera du traitement de l'eau qui doit être potable pour éviter des maladies hydriques.
Votre santé, votre avenir est un programme de VOA Afrique diffusé les samedis, dimanches et mercredis à 8h30, temps universel.
Ne manquez pas le rendez-vous.
Salut les amis, ici Roger Mountou de RM Show sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au programme de la bonne musique, notre sujet de cette semaine, la question que vous avez posée. Les jeunes d'aujourd'hui manquent de respect aux adultes et pensent avoir toujours raison. Partagez-vous cette opinion. Développez votre point de vue en le justifiant à l'aide des arguments. Envoyez-nous vos réactions par SMS ou WhatsApp au 001 703 350 3731. Contactez-moi aussi sur ma page Facebook Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show. RM Show, c'est chaque soir à 20h, temps universel. C'est sur VOA Afrique. Peace Africa.
Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, John Ellison. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.